Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio. À chaque début de mois, un nouvel épisode pour parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous écoutez Des ondes vocastes, bienvenue.
Des ondes vocastes.
Émission qui s'annonce très intéressante. Dans un instant, intervention de Fabien Randrianarisoa, journaliste en charge des podcasts originaux de BFM TV et RMC. Et puis aussi, on recevra Marc Lloyd, directeur des productions digitales du même groupe, à savoir Next Radio Télé. Juste après, si vous êtes un auditeur fidèle des ondes vocastes, vous savez qu'il y a une partie archive à chaque fin d'épisode. Comme d'habitude, nous allons parler de l'histoire de la radio, mais cette fois-ci, nous n'allons pas remonter très loin dans le temps. Nous allons parler des 6 derniers mercato. Nous listerons année après année les transferts d'animateurs qui nous ont marqué depuis 2014, avec quelques extraits bien entendu. Nous écouterons notamment la dernière de Bouvard pour les grosses têtes. Avant cette partie archive, un zapping, ce ne sera pas un zapping radio mais un zapping podcast. Tout de suite, la première partie de l'épisode, le tour des ondes.
Des ondes vocast, le tour des ondes en 80 tours.
Pour cet épisode, nous allons parler des podcasts originaux de BFM et RMC, médias du groupe Next Radio Télé. Marc Lloyd, directeur des productions digitales, audio et vidéo, va nous parler dans un instant des projets en cours et à venir et dresser pour la première fois un bilan avec quelques indicateurs d'audience. Mais en premier lieu, nous allons voir avec Fabien Randrianarisoa, journaliste que vous pouvez entendre dans le podcast RMC Expliquez-nous le monde, comment concrètement sont produits ces contenus. Bonjour Fabien.
Bonjour Anthony.
On va écouter des extraits de différents podcasts dont tu as la charge, mais avant tout, on va un peu recontextualiser. Tu as quitté France Info pour le groupe Next Radio Télé en janvier 2020. Quelles sont tes missions et objectifs pour ce nouveau poste ?
Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, sur ce poste-là, c'est que c'est très variable selon les projets. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va avoir une idée, il vient nous voir, Athénaïs Keller, qui dirige le pôle vidéo et audio, et moi, et on va essayer de mettre en place la mécanique du podcast, l'habillage, on réfléchit à un titre, à un visuel, il y a tout ce travail-là qui est fait. Et puis sur d'autres projets où c'est beaucoup plus autonome, c'est simplement vérifier que le texte est bien adapté à l'oralité, que l'enregistrement se fait dans de bonnes conditions, qu'on a les bons micros. Parfois, c'est assurer le montage pour certains projets comme Les Dents et Dodo. Parfois, c'est le journaliste qui va monter lui-même comme Bis Repetita avec Simon Busson. Donc en fait, ça dépend vraiment de la personne qui porte le projet de podcast. Et puis sur Expliquez-nous le monde, là, pour le coup, il s'agit de tout faire. L'idée, c'était de pouvoir faire un podcast avec Nicolas Poincaré. On a décidé de le faire à deux voix. Et puis, on fait la recherche de son, on choisit nos sujets, on fait la distribution après sur les réseaux sociaux. Là, ça englobe tout le processus de création d'un podcast.
Et justement, c'est un podcast qui a particulièrement attiré mon attention. C'est celui où on t'entend avec Nicolas Poincaré. Expliquez-nous le monde.
Ils ont été testés, ils n'étaient pas porteurs du virus.
J'aimerais demander pardon d'avoir pris à la légère cette crise.
Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
Bonjour, c'est Fabien Randrianarisoa. Ils sont une douzaine d'épidémiologistes français avec une mission, remonter le fil des contaminations jusqu'au fameux patient zéro. Une enquête digne d'un véritable polar, on vous explique. Des heures d'interrogatoire, des recherches minutieuses, des hypothèses et à chaque découverte d'un cas antérieur, retour à la case départ. C'est une enquête passionnante qu'ont mené Raphaël Baquet et Ariane Chemin du journal Le Monde. Retrouvera-t-on un jour le patient zéro français ? Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
On va vous expliquer pourquoi c'est important de retrouver ces patients zéro pour comprendre comment le virus arrive. On va voir où en est l'enquête en France, en Chine. Et puis aussi ce qu'on a appris des patients zéro des précédentes épidémies, par exemple le SRAS en 2003.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
Fabien Randrianarisoa.
Podcast Expliquez-nous le monde qui a continué de présenter de nouveaux épisodes en période de confinement. Comment ça se passe pour ce podcast ? Qui fait quoi ?
Alors en fait, on se partage les rôles. Le mardi à peu près, on fait une petite conf de rédaction entre nous, c'est hyper informel. Nicolas regarde les sujets qu'il a un peu traités dans la semaine et qu'il aurait voulu pouvoir traiter plus en longueur, ou alors quelque chose qui est apparu dans l'actualité. Je pense à l'affaire Richard Jewell qui sortait au cinéma. Nicolas l'avait pas traité à l'antenne dans la matinale. Et en discutant comme ça, dans notre discussion du mardi, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des choses à dire, que le fait qu'il était présent sur place ce jour-là, ça apporte vraiment quelque chose en plus et que l'histoire valait le coup. Donc en fait, lui va travailler sur la narration, sur ce qu'il veut raconter, sur quelles expériences de reportage il peut placer dans le podcast pour que ça apporte quelque chose en plus, que ce soit pas un journaliste qui parle d'un sujet qu'il connaît pas sans rien apporter de plus. Et moi, pendant ce temps-là, je vais chercher aussi comment est-ce qu'on peut illustrer le podcast, c'est-à-dire quels sons on va pouvoir mettre, par exemple pour le mensonge chinois sur le coronavirus. Ça consistait à aller essayer de trouver des sons d'activistes chinois, de journalistes citoyens qu'on a très peu vus, très peu entendus dans les journaux de médias traditionnels, et c'était l'occasion de faire entendre leur voix. Et donc ensuite, une fois que je les ai trouvés, par exemple pour cet activiste chinois, eh bien, il faut trouver un moyen de les traduire, et on fait les traductions nous-mêmes, donc ça prend un peu de temps. Et après toute cette préparation du mardi, eh bien, vient le moment de l'enregistrement le mercredi. Et ensuite, c'est quelques heures de montage, et après il y a toute la partie distribution, promo sur les réseaux sociaux qui se fait le jeudi après validation avec tout le monde, ouais.
Et l'enregistrement, ça se passe dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a eu des modifications pendant le confinement ?
Ouais, bien sûr. Alors déjà, nous, quand on est parti sur l'idée du podcast de Nicolas Poincaré, à l'origine, justement, ça devait être le podcast de Nicolas Poincaré, lui tout seul, qui parle dans une cabine. Et en fait, petit à petit, on a testé différentes choses, où il s'enregistrait chez lui, où il s'enregistrait seul en cabine. Et puis on arrivait à une formule où moi je venais en cabine avec lui, et on s'est rendu compte que on s'entendait bien, que ça fonctionnait bien, c'était plus dynamique à deux voix. Et donc on a continué cet enregistrement à deux voix, et on se met en studio. Maintenant, on a accès à un des studios de RMC. Et quelque chose qu'on a voulu garder de ces tâtonnements-là, c'est qu'on se met toujours très très proche dans le studio. C'est-à-dire qu'on se met pas face à face. On se met vraiment côte à côte. Pour avoir cette complicité-là dans le podcast, on essaye au moins d'être proche au moment de l'enregistrement. Et c'est ça qui a beaucoup changé depuis le coronavirus. C'est que c'est très compliqué pour nous parce que avant, quand on enregistrait un épisode d'Expliquez-nous le monde, on pouvait prendre le café avant pendant une demi-heure, 45 minutes. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, Nicolas, lui, est bien à RMC, mais il est tout seul dans le studio, c'est-à-dire qu'il va lui-même en régie pour tout mettre en place. Et moi, je suis avec lui au téléphone. C'est assez compliqué parce que moi, je m'enregistre là en ce moment à mon domicile sous une couette. Il fait une chaleur à mourir déjà. Donc, c'est beaucoup moins simple d'être détendu et à l'aise et complice quand on ne se voit pas et quand on ne peut pas se parler directement, quoi.
Mais merci en tout cas, Fabien, pour ce retour concret sur l'opérationnel, sur la production des contenus audio exclusivement distribués sur le web sous la marque BFM et ou RMC. On va creuser un peu plus le sujet des podcasts originaux avec Marc Lloyd, directeur des productions digitales audio et vidéo pour BFM RMC. Bonjour Marc.
Bonjour Anthony.
Alors j'étais très surpris quand j'ai vu que BFM TV se lançait dans la production exclusivement audio, alors que dans le groupe Altice, il y a déjà les médias RMC et BFM Business sur ce créneau. Alors du coup, pourquoi produire des contenus totalement audio sous la marque BFM TV ? Quels sont les buts, les objectifs ? Est-ce les prémices de BFM Radio qui sera diffusée en DAB+ ?
Depuis plusieurs années, en fait, on assiste pour nous à une fragmentation de la consommation digitale. Et du coup, pour nous, il nous semblait assez cohérent de proposer des contenus de BFM TV via le format audio.
Alors, tous ces différents podcasts sont plutôt en phase avec ce qu'est BFM TV, à savoir un média d'info continue, à l'exception du podcast Les Dents et Dodo. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un extrait.
Tu veux que je te raconte l'histoire des otaries à crinière ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée.
3, 2, 1, 0.
Une otarie à crinière, je suis sûr que tu imagines ça comme un petit lion avec des nageoires qui ferait oomp, oomp, oomp.
Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.
C'est un podcast BFM TV.
Les Dents et Dodo, un podcast pour accompagner les enfants pendant qu'ils se brossent les dents en leur racontant une histoire. Pourquoi avoir lancé ce type de contenu ciblant les tout-petits sous la marque BFM TV ?
Alors d'abord, je voudrais commencer par préciser quelque chose. Pour nous, Les Dents et Dodo, c'est de l'info. C'est pas de l'info qui est de la même manière traitée qu'à l'antenne, mais on reste dans l'ADN de la marque en adaptant nos sujets d'actualité, en l'expliquant de manière ludique et éducative aux enfants. On est vraiment dans notre ADN propre qui est l'information. C'est pas forcément la notion de flash en tant qu'info en continu, c'est plutôt de l'information qui est plutôt intemporelle.
Alors Alain Veil, qui a créé Next Radio, s'est beaucoup inspiré des US, notamment pour relancer RMC dans les années 2000, et cela lui a plutôt bien réussi jusqu'ici. Est-ce que l'idée du podcast Les Dents et Dodo vous est venue du podcast Chompers du studio américain Gimlet, d'ailleurs disponible en application vocale sur Alexa?
Ça fait partie de nos sources d'inspiration, mais je pourrais te citer aussi Smash Boom Best, par exemple, de American Public Media, ou But Why, qui est produit par l'excellente NPR aux États-Unis également.
En plus des productions audio BFM TV, il y a aussi des contenus originaux brandés RMC autour du sport, comme les déclinaisons de l'émission After Foot, donc After Paris, After Marseille, il y a After Lyon et After Saint-Etienne, il me semble. Et il y a aussi les podcasts RMC Sport, dont la plupart sont diffusés à minuit sur RMC. Donc il y a Basket Time, Cours Numéro 1, Chasse-Neige, Pro Gamer, RMC Fighter Club, J'aime Courir, et même Grand Plateau, qui est un podcast sur le cyclisme. Est-ce que le but à terme, c'est de mettre en œuvre une stratégie pour rationaliser le mieux possible les contenus produits et les personnalités intervenantes pour RMC plus RMC Sport?
Sans forcément parler de rationalisation, à l'image du groupe, beaucoup de journalistes passent à la fois en radio et en télé. On a décidé pour les podcasts de conserver cette mécanique qui a fait ses preuves. Donc pour nous, ça nous semblait totalement logique de continuer à faire cette stratégie.
Et en tout cas, oui, c'est vrai que c'est très malin de la part de RMC de proposer des podcasts thématiques sur les différents sports comme ça. C'est plutôt unique en France. Il y a des très bonnes synergies entre les différentes chaînes du groupe, tu l'as dit. Mais surtout, en fait, le fait de créer du contenu un peu de niche avec le sport comme ça, de cette façon, ça permet aussi de faire du sponsoring adéquat. On peut écouter cet exemple avec Basket Time, qui est un podcast sur le basket. Et écoutez, c'est très intéressant.
Vous rêvez de fouler le parquet avec une équipe de basket pro? Avec les téléviseurs 4K UHD et une barre de son immersive ou un casque audio TCL, vous serez au cœur du match. Revivez le meilleur du basket avec les podcasts RMC sur les applications Deezer et Spotify. Directement sur votre téléviseur TCL grâce au système Android TV TCL. TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs.
RMC, Basket Time,
Pierre Dorian.
Basket Time, c'est parti, votre rendez-vous basket du lundi sur RMC, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Stephen Brun, Cyril Méjean, Fred Veil, ça va les gars?
Salut mon petit Pierrot.
Vous avez passé un bon week-end de basket?
Salut tout le monde. Superbe week-end, match annulé dimanche pour coronavirus, c'était magnifique.
Antetokounmpo doit-il gagner un titre pour gagner le respect? On va démarrer par ça. Enfin, ça chauffe un peu en NBA là.
RMC,
Basket Time.
Extrait du Basket Time du 2 mars, est-ce que ça va un peu se généraliser ce type de sponsoring comme ça? Je trouve ça très malin.
Effectivement, ça, c'est une des logiques qu'on essaye de mettre en place autour des podcasts thématiques. Les modèles économiques podcast natifs passent notamment par du sponsoring. On a réussi à le faire par Parion Sport, qui nous accompagnait sur les After Club, avec messages qui sont dédiés sur le club en question qui est suivi. Donc
c'est je trouve un peu plus pertinent que le programmatique.
On est tous d'accord. C'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec la régie pour trouver des partenaires qui correspondent au mieux à la thématique et à la thématique et à l'angle de chacun des podcasts.
Ouais, pour moi ça élimine quand même les intermédiaires technologiques qui finalement n'apportent pas grand-chose et prennent une trop grosse part en fait sur le deal entre l'éditeur et l'annonceur.
Oui, sans forcément rentrer dans ces logiques-là, nous la promesse c'est de fournir un contenu qualitatif.
Bien sûr. Alors finalement, Marc, qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui ne marche pas parmi tous ces projets qu'on a évoqués, que ce soit pour BFM TV ou pour RMC?
Pour vous donner un ordre d'idée, depuis septembre, on a lancé quand même pas loin de 23 podcasts natifs dans le groupe. Donc du coup, on a tenté beaucoup de choses. Mais pour être très clair avec vous, on a pour le moment encore très très peu de recul sur les analyses de ces audiences. On a intégré Istat Médiamétrie en janvier dernier. C'est quand même assez délicat de pouvoir tirer des grandes conclusions.
Et tu me disais en off que le watermarking pour la mesure des podcasts, finalement, ça a été abandonné. Hein.
Il me semble en tout cas que ça a été mis en pause sur l'AIP. Ça va servir sur la mesure 4 écrans hors domicile. Pour la mesure télé, ça a même démarré le 30 mars dernier, si je ne me trompe pas. Pour le moment, notre analyse d'audience se fait sur Istat Médiamétrie Audio. Et si on parle de chiffres, on peut vous donner quelques tendances où on voit que tous nos podcasts natifs progressent de mois en mois. On parlait de ceux de sport, ils progressent de pas loin de 50% sur chaque mois. Donc pour nous, c'est une vraie réussite, les After Club compris, mais à la fois Chasse-Neige ou Pro Gamer ou Basket Time que tu citais tout à l'heure avec un extrait. Pour nous, c'est des vraies belles réussites.
Quand tu dis vraies belles réussites, c'est l'ordre de grandeur, le nombre de téléchargements à communiquer.
En fait, c'est la problématique qu'il y a actuellement. Beaucoup de gens parlent de chiffres. Moi, je préfère plutôt de parler de tendance sur cet exercice-là. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir qu'on fidélise, que chaque épisode qui passe, on a plus d'auditeurs sur l'épisode 52 que sur l'épisode 51. Notamment les dents et dodo, on multiplie par 7 notre écoute quotidienne avant et pendant le confinement. Donc pour nous, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants à suivre que le volume brut qui est soumis encore une fois à une certification qui n'est pas encore totalement actée. Donc voilà, nous on est très très contents.
Et concernant les points de distribution, est-ce que tu as des métriques, des ordres de grandeur sur quelle app de podcast les écoutes sont les plus nombreuses? Est-ce que sur vos apps il y a plus d'écoutes que sur Apple Podcast ou sur Spotify?
Alors on a encore une fois très très peu de mesures claires et nettes sur cet exercice. Pour répondre à ta question, oui, on est sûr qu'il y a beaucoup plus d'audience sur nos supports propriétaires, donc sites, applications, que sur les plateformes d'écoute de streaming que tu as cité, Apple, Deezer, Spotify, Google Podcast qui est arrivé également. Donc pour nous, on a vraiment cette volonté numéro une de rendre disponibles nos contenus sur nos supports propriétaires et de proposer la meilleure expérience utilisateur possible pour que les gens soient satisfaits de venir écouter soit le live ou soit les podcasts sur notre appli RMC ou RMC Sport ou BFM TV ou BFM Business sur iOS et sur Android.
Ce qui est intéressant, c'est que vous produisez du contenu d'e-sport, l'e-gaming. La marque RMC, on l'associe pas tout de suite à ça et pourtant vous êtes pionnier en la matière. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats sur ce podcast-là, Pro Gamer?
Nous, on est très fiers d'avoir pris la parole sur cette thématique là qui est le e-sport parce que ça nous tenait à cœur et pour nous c'est vraiment une marque, enfin une thématique qui nous semble intéressante en tout cas à suivre aujourd'hui et pour l'avenir. Donc Pro Gamer, en termes d'audience, ça reste beaucoup plus confidentiel que ce qu'il y a sur le foot par exemple. Donc c'est sûr que si on compare After Paris et Pro Gamer, on n'est pas du tout dans les mêmes bassins d'audience.
Alors on va quand même parler des choses qui ne fonctionnent pas, parce que c'est aussi intéressant de s'intéresser aux échecs. Enfin, je dis échecs, mais c'est pas négatif. Je veux faire écho au flash BFM TV renouvelé toutes les heures conçu pour les assistants vocaux qui a été arrêté il y a quelques mois. Bon, les audiences via enceinte connectée étaient visiblement décevantes, je suppose. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que pourquoi vous avez produit du contenu supplémentaire? Pourquoi pas se satisfaire d'essayer de choper la présentation des titres qu'il y a dans le flux? Pourquoi pas essayer de récupérer la matière qui existe déjà?
Alors la matière, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait souvent des illustrations dont se servaient les journalistes de l'antenne de BFM TV, et du coup, on pouvait pas se permettre de poser ça de manière régulière en format flash. Voilà. Donc, ils s'appuient beaucoup sur les walls qui sont derrière, donc les murs d'écran pour introduire leur sujet, et du coup, ça passe pas de manière permanente, en tout cas sous ce format-là. On y a pensé.
Mais alors du coup, ça veut dire que le flux en audio de BFM, BFM Radio, c'est-à-dire vous ne prenez pas en compte ceux qui écoutent via ce biais-là, alors du coup?
Pour le moment, ce qu'on propose, c'est une expérience assez assez simple. On propose d'écouter BFM TV en audio avec la marque BFM Radio. On verra si on décide de dédier des flux spécifiques sur ce format-là ou en audio.
Ça veut dire que pour l'instant, vous savez pas si vous allez demander à réadapter les écritures pour que le flux BFM TV soit aussi audible que visible, ou peut-être créer des déclinaisons avec des contenus spécifiques comme on a avec France Info. Pour l'instant, c'est que c'est pas encore déterminé. C'est ça.
On réfléchit à plusieurs alternatives. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles.
Et du coup, alors, quelle suite? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets dans les cartons?
Il y a plein de projets dans les cartons. On va proposer des contenus sur les faits divers, j'espère, avant l'été. Et après, dans les autres cartons, on a toujours la volonté de faire vivre l'afterfoot du mieux qu'il puisse être. Donc, on réfléchit aussi à d'autres projets autour de cette émission-là. Et puis après, il y a une chaîne dont on a pour le moment très peu parlé, mais BFM Business, qui est notre chaîne d'information économique et financière, va également sortir des podcasts prochainement sur l'univers éco, tech, leur cœur de métier.
Alors justement, tu parles de BFM Business et en plus tu disais que vous analysiez beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. On retrouve beaucoup en France de formats qui cartonnent aux États-Unis, mais il y a un show aux US qui n'a pas spécialement d'équivalent en France et qui pourtant rapporte beaucoup d'argent et parle d'argent. C'est The Dave Ramsey Show, donc un programme initialement radio et maintenant disponible en podcast et sur diverses plateformes comme YouTube. C'est une émission voilà qui parle d'argent mais à destination de monsieur tout le monde plutôt qu'au CSP+ cadre dirigeant comme c'est le cas avec BFM Business. Est-ce qu'un nouveau format de ce genre pourrait faire son apparition du côté de Next Radio Télé?
Pour The Dave Ramsey Show, effectivement, alors c'est 2 millions d'abonnés sur YouTube, c'est pour nous un exemple à suivre sur la médiatisation de ces contenus. Après, sur le pas forcément sous un format talk, mais on fera des podcasts natifs. Après, sur la cible, c'est là où ça peut être intéressant pour nous, c'est qu'on s'interdit rien. Pourquoi pas vulgariser l'économie également sous un format podcast? On réfléchit à tout ça, main dans la main, pareil avec la direction de BFM Business. Donc.
En tout cas, voilà, ce qui est vraiment remarquable et ce que j'apprécie vraiment très sincèrement du côté d'Altice, c'est à quel point vous avez de fortes synergies entre les différentes chaînes, les différents canaux. Les émissions produites sont aussi bien consommables en audio qu'en vidéo, elles sont disponibles partout, les équipes travaillent pour plusieurs marques en même temps et c'est le cas sur les contenus sport, on en a parlé, mais aussi un côté techno, il y a De quoi je me mêle qui est diffusé via 01net qui fait partie aussi du groupe. Donc en gros les frontières entre télé, radio, online sont de plus en plus floues, c'est ça?
Oui, et pour boucler la boucle, il faut savoir que De quoi je me mêle est également disponible en télé sur la chaîne 01TV depuis le mois de janvier. Donc effectivement François Sorel qui est le présentateur de quoi je me mêle a été avant-gardiste il y a quelques années en passant son émission également en podcast bien avant l'émergence du marché français. Donc pour nous, oui, on est ravis en tout cas de montrer que on peut passer à la radio, en podcast, en télé. Pour nous, c'est effectivement l'ADN du groupe qui rejaillit à travers ces exemples que tu citais. Ouais.
Un des premiers podcasts natifs, on pourrait dire que c'est De quoi je me mêle, parce qu'avant il était à l'antenne de RMC, puis ensuite il a été enlevé de la grille, mais a continué de ils ont continué à faire des épisodes le vendredi en fin de journée en podcast. Et pourtant, à l'époque, on n'appelait pas ça podcast natif. Ça continuait d'être une émission de radio.
Exactement. Je te confirme que De quoi je me mêle est notre premier podcast natif qui a plus de 10 ans.
Comme tu disais, tout devient média global. Hein. BFM Business en est le parfait exemple. C'est autant une radio qu'une télé. Et si c'était ça, le futur des médias, on en parle justement du futur des médias dans Des Ondes Vocasse Premium avec Fabrice Gauthier, directeur de Broadcast Associé. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur premium.vocasse.fr. Merci Marc pour toutes ces informations sur les podcasts originaux BFM et RMC.
Merci Anthony, j'ai été ravi de pouvoir participer à ce podcast. Merci beaucoup.
Pour la suite, on va pas spécialement parler de RMC car on va revenir sur les mercatos année après année depuis 2014. Sur RMC, hein, il y a eu assez peu de changements, les grilles sont restées relativement stables. Comme à chaque fin d'épisode, on parle de l'histoire de la radio, cette fois-ci avec Damien Pellet.
Des ondes vocastes. Le tour des ondes en 80 tours.
Chaque année, à partir du mois d'avril en général, on commence à voir passer des articles annonçant des départs et transferts d'animateurs radio. Depuis 2008, je suis tous ces mouvements sur Histoire Radiophonique, un site tenu par un passionné de radio, Damien Pellet, qui se fait surnommer Pelleux. Associé depuis 2014 avec Eddy de Radioscope, il fournit chaque année un formidable travail récapitulant le mercato en cours. Environ 800 animateurs, journalistes, chroniqueurs sont suivis sur radio avec un s.pelleux.eu. Et justement, Damien est avec nous pour cet épisode. Bonjour Damien.
Bonjour, bonjour tout le monde. Alors effectivement, normalement cette période printanière, nous sommes en plein mercato radiophonique. Les annonces commencent à tomber, plus ou moins officiellement, tandis que les rumeurs, des plus sérieuses ou plus folles, circulent à qui mieux mieux. Mais cette année, nada que dalle ne signe rien. C'est l'un des effets secondaires du Covid-19. Enfin, si pour l'instant nous savons juste une chose, Christophe Dugarry veut prendre du recul et annoncer l'arrêt de la team du gars sur RMC.
C'est vrai que c'est étonnant, hein. Cette année on parle pas beaucoup hein, du mercato, mais du coup Damien, tu nous proposes de remonter dans le temps avec les transferts les plus marquants du mercato radio, du moins de cette dernière décennie.
Et nous vous proposons de remonter le temps jusqu'en 2014 où a eu lieu le plus gros coup de ces dernières années.
Alors avant de rejoindre 2014, on va commencer par 2019.
Et le mercato 2019 a commencé par une annonce forte. Marc-Olivier Fogiel quitte RTL pour prendre la direction de BFM TV. Le journaliste animé le 18-20 de RTL était devenu l'une des figures de proue de la station, mais depuis quelques années, il souhaitait prendre la direction d'un média. Alors la direction de la première chaîne Info de France, ça se refuse pas.
Et puis le nom de son remplaçant a été très très vite annoncé.
Oui, seulement 4 jours après que le journal du dimanche a annoncé son départ de RTL, la station officialise l'arrivée de Thomas Soto à la présentation de RTL Soir et de On refait le monde. Thomas Soto fait ainsi son retour à la radio pour la première fois depuis son éviction d'Europe 1 en 2017. Marc-Olivier Fogiel déclarera dans la presse qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur choix de la part de RTL. Et l'arrivée de Thomas Soto sera mise en scène par RTL puisque le 27 juin, il est l'invité mystère des grosses têtes avant d'être reçu dans RTL Soir par Marc-Olivier Fogiel, où l'on ressent une grande complicité entre les deux hommes.
Alors je me souviens très bien de ce moment hein, sur RTL Soir, c'était très sympa d'ailleurs, écoutez.
C'est qui Thomas Soto pour les auditeurs qui vous ont vu, vous voir remplacer Laurent Dalloz sur France 2, certains vous écoutez peut-être sur Europe 1. Tout le monde vous connaît aujourd'hui ou à peu près, mais c'est quoi la spécificité Thomas? Voilà, si je sais que c'est super compliqué de se définir soi-même, mais c'est quoi?
Je crois que ma spécificité, si j'en ai une, c'est d'être moi-même, de pas chercher à être quelqu'un d'autre, de pas chercher à mettre le costume de quelqu'un d'autre, les chaussures de quelqu'un d'autre. Et j'ai une autre spécificité qui est plus marquée, c'est celle de passer après Marc-Olivier Fogiel à Europe 1. C'était le cas. Ici, c'est le cas. Je me demande si j'ai un avenir sur une chaîne d'info.
Vous en venez, hein,
j'y
Thomas,
ai déjà
Thomas,
un passé. Donc,
Je m'en souviens encore, ça m'avait bien fait rire cette remarque de Thomas Soto. Donc c'est un extrait de la dernière de RTL Soir avec Fogiel en compagnie de Thomas Soto. Et du côté des généralistes, alors quel autre transfert marquant l'année dernière en 2019?
Europe 1 marque un gros coup avec le recrutement de Nathalie Lévy qui quitte BFM TV, dont elle était l'un des visages phares, pour reprendre le 18-20 de la station face à Thomas Soto. Ce sera d'ailleurs le seul recrutement à l'externe que fera Europe 1 pour cette année-là, côté tête d'affiche.
Effectivement, Europe 1 avait l'habitude de renouveler beaucoup hein, de ses têtes d'affiche ces dernières années.
Le mercato 2018 est essentiellement centré sur Europe 1, dont Laurent Guimet vient de reprendre la direction après l'échec cuisant de Frédéric Schlesinger à France Interiser l'antenne. Et du côté de la rue François 1er, où était encore Europe 1 pour quelques mois avant son déménagement dans le 15e, les annonces se succèdent entre départ fracassant et arrivée surprise. Côté départ, Caroline Dublanche surprend tout le monde en quittant Europe 1 pour RTL, où elle récupère la case musicale de Georges Lang en semaine, pour faire exactement la même chose que sur Europe 1, une libre antenne feutrée et nocturne. Elle était la voix des nuits d'Europe 1 depuis 10 ans avec de très bonnes audiences.
C'est vrai que ça m'avait étonné hein, le départ de Caroline Dublanche pour RTL, mais à l'époque, le départ qui m'avait quand même le plus marqué, c'était celui de Franck Ferrand.
Ces quelques semaines avant de fêter la 1500e émission de Au cœur de l'histoire et ses 15 ans de radio, que Franck Ferrand révèle l'arrêt de son émission. L'animateur annonce très tôt que la nouvelle direction d'Europe 1 lui avait signifié la fin de sa quotidienne. Une décision que l'historien regrette dans toutes ses interviews, tout en reconnaissant en ignorer les raisons. Si l'émission connaît quelques baisses d'audience, elle reste à un bon niveau et fait partie des programmes les plus podcastés de la station. En outre, elle avait été récompensée en 2017 comme meilleure émission de radio. Après avoir refusé une émission le week-end, Franck Ferrand officialise avec beaucoup de regret son départ d'Europe 1 et courant juillet, Radio Classique annoncera son arrivée sur son antenne pour un récit historique quotidien.
C'est vrai, comme tu disais, le mercredi 27 juin 2018, quelques jours avant son départ, il y avait donc eu une émission spéciale d'Au cœur de l'histoire pour fêter la 1500e émission et du coup les 15 ans sur les ondes de Franck Ferrand. On écoute un extrait.
Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand.
« Cette musique, devenue signe de ralliement, cet indicatif tellement familier, est l'œuvre de Julien Tarot, grand sorcier du son sur Europe 1, concepteur du récent podcast Varennes. Début janvier 2011, cela fait deux saisons qu'Europe 1 me garde en disponibilité. Je vaque d'une occupation, d'une émission, je dirais, à l'autre, au gré des besoins de l'histoire. Je n'ai plus à moi qu'un petit rendez-vous hebdomadaire d'une demi-heure qui s'appelle « Mon héros dans l'histoire » le samedi à 18h. C'est Philippe Balland qui m'avait donné ce rendez-vous. Europe 1 a un nouveau PDG, Denis Oliven, et je suis le premier qu'il convoque à son arrivée rue François 1er. Entre nous, je suis convaincu qu'il entend clarifier ma drôle de situation en me mettant dehors. Mmh. Stupéfaction, c'est tout le contraire. Je ne sais pas encore dans le moindre détail ce que nous allons faire ici, me dit-il, mais je peux vous dire que vous, vous allez retrouver votre émission quotidienne. Ah bon, dis-je, dès septembre ? Non, non, dès le mois prochain. Ainsi commence la belle aventure d'Au cœur de l'histoire, un titre forgé par le directeur des programmes de l'époque, Bruno Gaston. La première, le 28 février 2011, est consacrée au secret de Meyerling, avec Jean Descartes pour invité, et puis viennent l'alchimiste Nicolas Flamel, l'écrivain Alfred de Musset, l'inénarrable Talleyrand et Haïti, et Jacques l'Éventreur et Théroigne de Méricourt, etc.
Franck Ferrand pour sa 1500e sur Europe 1, parti en fin de saison en juin 2018. Du coup, pour préparer la saison 2018-2019, quelles nouvelles venues sur Europe 1 à ce moment-là ?
Alors, côté arrivée, Europe 1 annonce le recrutement de Laurence Boccolini, absente des ondes depuis trop longtemps, de Mathieu Béliard, qui quitte l'équipe de Bourdin sur RMC, et, aux surprises, de Bernard Poirette, vétéran de RTL où il anime les matinales de week-end depuis 10 ans, et la direction vient de lui annoncer qu'il ne représenterait plus, qu'il serait remplacé par Stéphane Carpentier, mais sans lui dire où il irait, à part peut-être au placard.
Alors, on peut aussi noter le passage d'Edouard Baird, c'est à ce moment-là hein, qu'il est parti des matinales de Radio Nova pour faire une émission le dimanche en soirée sur France Inter, bon, même s'il est resté hein, qu'une année. Parlons maintenant du Mercato 2017.
Bien, en 2017, c'est déjà Europe 1 qui fait le show dans le Mercato. Arnaud Lagardère vient de débaucher Frédéric Schlesinger de Radio France pour diriger et surtout relancer la station. Et dans son sillage, plusieurs personnalités quittent la maison de la radio pour la rue François 1er. Le recrutement le plus marquant est Patrick Cohen qui quitte la très populaire matinale de France Inter pour relancer celle d'Europe 1. Patrick Cohen ne fera qu'une saison aux commandes d'Europe Matin. La greffe ne prend pas. Certains diront qu'il est encore trop France Inter pour les auditeurs d'Europe 1. Sinon, en 2017, c'est aussi le départ surprise de Coé, dont Energy n'a pas renouvelé le contrat après 7 saisons à l'antenne.
Alors c'est vrai que lors de la dernière, le vendredi 30 juin, on sentait clairement que rien n'était sûr hein, concernant la saison prochaine. Ça sentait déjà pas très bon avant même son licenciement en juin.
Vous tous, que vous alliez bien, que vous alliez mal, que vous ayez eu des galères, que vous soyez en train de grandir et que vous avez l'impression que le monde est injuste et que c'est de la merde, et que tout, si ça va bien ou si ça va mal, dites-vous qu'on sera toujours là. Et si on n'est pas là demain, parce que c'est les vacances, mais qu'on n'est pas là en septembre ou qu'on est ailleurs en septembre, ou que on sera toujours là sur les réseaux sociaux pour vous parler à tout moment et on sera toujours à côté de vous.
Donc juste à oublier trois personnes, c'est Jean-Paul, Gaël et Morgane, c'est les plus importants.
Non, je dis merci. J'ai dit merci à la direction.
Bon, remercie encore, s'il te plaît.
Bah, je remercie. Non, je les remercie. Si on fait une saison 8, il faudra qu'ils viennent un peu plus souvent nous voir parce que je pense qu'ils ont oublié eux-mêmes où était le studio.
Donc, Gaël descend des fois.
Gaël descend.
Ouais. Je pense que Jean-Paul, il a pensé que c'était la cave, il a oublié qu'il y avait un studio. Jordan en Suisse, ça va Jordan?
Oui, salut, ça va, Koué? Comment ça va?
Ça va, mon Jordan. On te fait un gros bisou aussi, je te souhaite de bonnes vacances.
Pareil, merci. Et heureux qu'il y ait une nouvelle saison 8.
Je t'embrasse mon copain, je t'embrasse, portez-vous bien, passez tous une belle soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, suivez-nous sur Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, YouTube, je vous embrasse, je vous aime fort, merci.
Ouais,
et heureusement que vous êtes là, je vous embrasse fort, merci beaucoup. Au revoir.
Coé,
19h-22h sur Énergie.
Toujours le bordel hein, dans ces émissions, même pour la dernière de Coé sur Énergie en 2017. Une dizaine de jours plus tard, hein, donc le mardi 11 juillet, Énergie annonce l'éviction de l'animateur, qui sera récupéré très rapidement par Virgin. Mais vous le savez, hein, Coé revient un an plus tard sur Énergie. Damien, maintenant parlons du Mercato 2016.
Oui, alors 2016 peut se résumer en deux courtes informations, parce que pour moi ça n'a pas été un des plus marquants. Après 5 saisons aux commandes de la matinale de RFM, Bruno Robles quitte le meilleur des réveils pour rejoindre la matinale de Rire et Chanson. tandis qu'Anne Roumanoff fait son retour sur Europe 1 avec la très bonne émission « Ça pique, mais c'est bon », 2 ans après avoir été remercié d'ailleurs.
Moi, j'ai bien aimé, moi, « Ça pique, mais c'est bon » à midi. Passons donc en 2015, le Mercato 2015.
Et le Mercato 2015 commence en trombe avec le départ de RTL de Jean-Michel Apathy. Après 12 ans sur RTL, le journaliste qui roule les R quitte la station pour la concurrente directe Europe 1. Quelques semaines plus tôt, RTL lui avait annoncé qu'il n'assurerait plus l'interview politique de 7h50. Et il arrivera rue François 1er avec un nouveau challenge, co-animer une tranche d'information, ce qu'il n'a jamais fait. Europe Midi avec Maxime Switek, tous les deux ils trouveront une belle complicité et une bonne complémentarité. 2015, c'est aussi l'année où RFM décide de remercier Guillaume Aubert et Sophie Coste, alors Claudio proposait un drive sympathique et avec de bonnes audiences.
Ouais, c'est vrai que c'était c'est un choix assez difficilement compréhensible, hein, parce que voilà, c'est vrai que le duo fonctionnait bien. On a retrouvé une des dernières interviews du journal Les Stars de Sophie Coste avec un certain Nico Saliagas.
RFM, le journal des stars.
Journal des stars ce soir avec la star des journalistes gréco-français.
Il n'y en a pas d'autres.
Non, c'est vrai. Nico Saliagas, bonsoir Nico.
Salut Sophie.
Alors gréco-français ou franco-grec ?
Né ici, donc français d'adoption, grec de cœur parce que parents arrivés dans les années 60, donc les deux. J'aime autant l'un que l'autre et l'un a besoin de l'autre
bien
par
sûr.
Extension.
Sophie Coste, hein, à l'époque sur RFM. Autre chose à noter concernant le Mercato en 2015, Damien ?
Oui, du côté de MFM Radio, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de M Radio, qui recrute un spécialiste des matinales, Alexandre Devoise, resté dans les mémoires pour ses performances aux commandes du Grand Bazar RTL2, et qui était ces dernières années animateur estival sur RTL.
Damien, là on arrive au terme de notre voyage dans le temps avec l'année 2014, où là c'est vraiment l'année avec le cataclysme qu'on connaît tous.
Indiscutablement, Tony, 2014 marque pour moi le plus gros coup de tous les mercato depuis que je les suis, et je les suis assidûment depuis 2008. L'information essentielle du mercato 2014 aurait pu être le retour de Nagui à la radio, dont il était absent depuis son départ de la matinale de Virgin Radio en 2008. Après des rumeurs donnant de retour d'ailleurs sur Virgin, son arrivée sur France Inter est officialisée par Laurence Bloch. Mais non, l'information qui va véritablement lancer le Mercato 2014 et marquer l'histoire des Mercato tombe dès le 19 mars. Laurent Ruquier va reprendre les commandes des grosses têtes en lieu et place de Philippe Bouvard.
Alors je m'en souviens, quand j'ai appris ça à l'époque, j'étais fou. La nouvelle avait quand même beaucoup surpris à l'époque. Il y a eu beaucoup de papiers à ce sujet.
Tout d'abord, c'est un gros coup pour RTL. Elle débauche d'Europe 1 celui qui en 15 ans de On va se gêner est devenu le plus gros concurrent. Que dis-je ? La plus grande menace pour les grosses têtes. Ensuite, cela surprend car RTL a déjà essayé de remplacer Philippe Bouvard par Christophe de Chavannes en 2000, mais le fondateur des grosses têtes avait retrouvé sa place quelques semaines plus tard, non sans avoir joué entre-temps d'ailleurs le chroniqueur de luxe de chez Ruquier sur Europe 1. Mais là, il n'y aura pas de retour en arrière. Philippe Bouvard a plus de 80 ans et RTL se doit d'assurer l'avenir de son émission mythique lancée depuis 37 ans.
Et le vendredi 27 juin 2014, on a pu entendre à l'antenne de RTL les adieux de Philippe Bouvard.
Alors je voudrais vous dire, et c'est le moment que je redoutais un peu, que nous allons nous quitter. Pas complètement, vous l'avez entendu, mais je vais quitter les grosses têtes. Et les grosses têtes, elles faisaient partie de ma vie. Vous allez me manquer. Alors je voudrais vous dire très simplement que je penserai souvent à vous, que peut-être que j'aurai au téléphone dans une autre émission certains d'entre vous, que vous avez été plus de la moitié de ma vie professionnelle, sans doute la moitié la plus heureuse, et que je vous embrasse tous. Merci.
Dernière. Le lundi 25 août, Laurent Ruquier fait sa première et parmi ses sociétaires, on retrouve celui qui était mon préféré, Pierre Bénichoux, décédé le 31 mars 2020. Ce transfert de Laurent Ruquier d'Europe 1 à RTL marque un cap pour les deux radios.
Côté de RTL, Laurent Ruquier apporte un vent de fraîcheur dans la continuité. Les audiences suivront très vite jusqu'à faire des grosses têtes une machine de guerre qui domine la concurrence. Imaginez que RTL a presque deux fois plus d'auditeurs que France Inter qui arrive en deuxième position des audiences sur la tranche 16h-18h. Et côté Europe 1, c'est le début de la fin. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat pour remplacer Laurent Ruquier, mais il ne tiendra que deux saisons sans arriver à remonter des audiences en plongée abyssale. Personnellement, j'aimais bien les chroniqueurs, mais pas Hanouna dans cet exercice. 6 ans après, Europe 1 ne s'est toujours pas remis de son départ.
Alors c'est vrai que ce mercato de 2014 a encore des impacts sur les audiences d'aujourd'hui, du côté des généralistes au moins. Merci beaucoup Damien pour ce retour dans le temps. Vous pouvez retrouver Histoire Radiophonique sur radio.peleu.eu. Je vous conseille aussi d'aimer la page Facebook. Damien poste de temps en temps quelques exclus. Et puis durant le confinement, Damien, tu as proposé un concept sympa, Radio Travail, des entretiens confinés avec des gens de radio, des animateurs, journalistes, chargés de communication, directeurs d'antenne, pour connaître leur situation en période de confinement. Donc c'est dispo sur Facebook et sur le site web. Tu as reçu des personnalités comme Éric Jean-Jean, Hélène Zellani, Jérôme Anthony et celui que tu as nommé comme parrain en vue des multiples rencontres que tu as pu faire avec lui, Guillaume Aubert. Merci encore Damien d'avoir préparé cette partie archive.
Mais je t'en prie Anthony, à bientôt.
C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocasses, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert. Pour les crédits musicaux, citons Rob It's a Blast, la BO de Radio Star. Vocasses, c'est un projet pour les passionnés des médias. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Assurez-vous d'être bien abonné sur les différentes plateformes de podcasting et laissez-y un commentaire pour nous donner votre avis. Rendez-vous également sur notre site web, vocasses.fr. En plus de retrouver tous les liens et épisodes du podcast des Ondes Vocasses, vous retrouverez un accès à notre système de piges. Cela vous permet de télécharger l'enregistrement d'une heure d'antenne, en particulier d'une radio parmi 200 stations. Prochain épisode début juin 2020. À très bientôt et vive la radio. Ciao.
Des Ondes Vocasses.